Chapitre 8. Madame Gawain, mère, se rappelle un peu tard qu'il faut des époux assortis. Tandis que les eaux de Venise et les ruines de Rome se grillaient au soleil pour le plus grand plaisir de la famille Dorite et fournissaient tous les jours à des milliers de crayons voyageurs des sujets d'esquisse qui ne ressemblaient à rien, la maison d'Oyce et Clennam faisait retentir de ses coups de marteau la cour du cœur saignant, où la voix mâle du fer contre le fer résonnait sans cesse pendant les heures de travail. Le plus jeune des deux associés avait achevé de mettre en ordre les livres et les comptes, et le plus âgé, n'ayant plus qu'à s'occuper de ses ingénieuses inventions, avait beaucoup fait pour augmenter la réputation de la fabrique. En sa qualité d'homme de talent, il eut nécessairement à lutter contre les obstacles sans nombre que le gouvernement oppose toujours à cette classe de malfaiteurs. Du reste, il n'est que fort raisonnable de la part des autorités d'en agir ainsi, puisque l'art de simplifier les choses est l'ennemi né, l'ennemi mortel, de l'art de tout entraver. Telle est la base du système que le ministère des circonlocutions défend ungibus et rostro, et qui consiste à prévenir tout sujet de Sa Majesté britannique que s'il vient à montrer du talent, ce ne peut être qu'à ses risques et périls, à l'impatienter, à lui barrer le chemin, à donner au voleur la tentation et le temps de le dépouiller, en rendant toute persévérance de sa part incertaine, difficile et coûteuse, et à confisquer, au bout d'un terme de jouissance très limité, la propriété de ceux qu'il traite le mieux, comme si un brevet d'invention équivalait à un crime capital pour la prescription. Ce système a toujours été celui des mollusques, et vraiment c'est encore une chose bien raisonnable. Car enfin, quiconque se sent coupable d'une invention utile est nécessairement un homme actif et sérieux. Or, les mollusques craignent et détestent ces gens-là comme la peste. Et c'est encore une chose bien raisonnable vraiment, car dans un pays affligé d'un grand nombre d'hommes actifs et sérieux, on risque de voir disparaître en moins de rien, jusqu'au dernier des mollusques, des postes où ils sont incrustés. Daniel Doyce, faisant face à la situation et aux pénalités encourues, continua à travailler par amour du travail. Clennam, qui l'encourageait par sa cordiale coopération, devint un soutien moral pour son ami, en même temps qu'il lui rendait de bons services comme associé. La maison était en pleine prospérité. Les deux associés avaient l'un pour l'autre la plus grande estime. Mais Daniel ne pouvait oublier le projet qu'il entretenait depuis tant d'années. On ne devait guère s'attendre à le lui voir oublier. Un homme capable de renoncer ainsi à son invention ne l'aurait jamais conçu et n'aurait eu ni assez de patience ni assez de persévérance pour la perfectionner. C'est ce que devinait Clennam lorsque le soir, il voyait Daniel Doyce, après avoir examiné ses modèles et ses plans, se consoler avant de les remettre de côté en marmottant tout bas que la chose était tout aussi vraie qu'elle l'avait jamais été. Clennam aurait cru manquer à une stipulation tacite du contrat d'association s'il n'avait témoigné aucune sympathie pour tant d'efforts si mal récompensés. Ce sentiment réveilla en lui l'intérêt passager que le sujet avait fait naître dans son âme à la porte du ministère des circonlocutions. Il pria Doyce de lui expliquer son invention. « Vous userez d'indulgence si je ne vous comprends pas tout d'abord, » ajouta-t-il. « Attendu que je ne suis pas du métier, Doyce. »« Pas du métier? Vous auriez fait un excellent industriel, au contraire, si vous vous étiez adonné à ce métier. Je ne connais pas de meilleure tête que la vôtre pour comprendre ces choses-là. C'est pourtant une tête, je suis fâché de le dire, qui ne connaît pas les premiers éléments des arts mécaniques. »«
Je ne dis pas ça, et je doute que vous ayez le droit de le dire vous-même. » Un homme sensé, dont l'esprit a été cultivé, ou qui s'est donné la peine de le cultiver lui-même, ne peut dire qu'il manque des premiers éléments de quelque art que ce soit. Je n'aime pas les mystères. Peu m'importe que l'homme appelé à juger mon œuvre sur une explication franche et claire appartienne à une classe ou à une autre, pourvu qu'il soit dans les conditions dont je parlais tout à l'heure. Dans tous les cas, on dira que nous sommes en train d'échanger des compliments, mais nous savons tous deux qu'il n'en est rien. Je suis bien sûr d'entendre une explication aussi nette qu'il est possible de la donner. « Allons, répondit Doyce, je tâcherai. » Doyce avait le talent, assez commun chez les hommes de sa trempe, d'expliquer les choses qu'il concevait et de démontrer ce qu'il voulait avec la force et la clarté qui le frappaient lui-même. Ces démonstrations étaient si bien entendues, si nettes, si simples, qu'il était difficile de ne pas les comprendre. Il y avait une contradiction grotesque entre le vague préjugé accepté par l'opinion, qu'un inventeur ne saurait être qu'un visionnaire, et la précision, la sagacité avec lesquelles l'œil et le pouce de Doyce parcouraient les devis, s'arrêtant avec patience à certains points, revenant à d'autres, d'où il fallait faire découler quelques explications supplémentaires, sa marche soigneuse et prudente pour tout éclaircir, tout prouver à chaque phrase importante de cette démonstration, avant de faire un pas de plus. La modestie avec laquelle il s'effaçait n'était guère moins remarquable. Il ne disait jamais « J'ai découvert ce nouveau procédé, j'ai inventé cette combinaison ». Mais il expliquait son invention comme s'il se fût agi d'un ouvrage du divin architecte qu'il aurait observé par hasard. Tant il se mettait à l'écart, mêlant à sa tranquille admiration de son œuvre une aimable nuance de respect et une calme conviction que son invention s'appuyait sur des lois irréfragables. Clennam consacra non seulement cette soirée-là, mais plusieurs soirées consécutives à cette investigation. Plus il la poursuivait, plus il contemplait la tête grise penchée sur ses plans et l'œil sagace qui brillait de plaisir en les expliquant, bien qu'ils fussent la cause de tous les soucis qui lui serraient le cœur depuis 12 longues années, moins il pouvait, plus jeune et plus énergique, se résigner à ne pas tenter un dernier effort. Enfin, il dit à son associé, « Doyce, leur dernier mot, c'est qu'il fallait laisser là l'affaire, enterrer avec Dieu sait combien d'autres, ou tout recommencer. Oui, c'est là ce que les nobles gentlemen du ministère ont décidé au bout de 12 ans d'examen. Voilà des individus bien capables de juger votre invention, ma foi, dit Clennam avec amertume. C'est toujours la vieille histoire, remarqua Doyce. J'aurais tort de vouloir me poser en martyr lorsque j'ai tant de camarades. L'abandonner ou tout recommencer, répéta Clennam d'un ton rêveur. Tel est le résumé de la décision de ces messieurs. Eh bien, mon ami, s'écria Clennam, se levant et saisissant la main rude du mécanicien, nous recommencerons. Doyce parut effrayé et répliqua, très vivement pour un homme aussi calme que lui, « Non, non, il vaut mieux laisser cela de côté, beaucoup mieux. On en parlera un jour, un peu plus tôt, un peu plus tard. Moi, j'y renonce. Vous oubliez, mon cher Clennam, que j'y ai renoncé. C'est une affaire finie. » « Oui, Doyce, c'est une affaire finie pour vous. Et je reconnais que vous ne devez pas vous exposer à de nouvelles rebuffades. Mais moi, je n'ai encore rien fait. Je suis plus jeune que vous, je n'ai mis qu'une seule fois les pieds dans ce précieux ministère des circonlocutions, et j'ai le courage de l'inexpérience. Allons, je suis décidé à livrer l'assaut. Vous continuerez à faire exactement ce que vous avez fait depuis que nous sommes associés. Je puis très aisément, sans renoncer en rien à mes occupations habituelles, faire des démarches afin qu'on vous rende justice. Et à moins que je n'aie quelque succès à vous annoncer, je ne vous reparlerai plus de mes tentatives. » Daniel Doyce n'y consentit pas tout de suite et répéta à plusieurs reprises qu'il valait mieux renoncer à l'affaire. Mais comme il était naturel qu'il se laissât persuader par Clennam, il finit par céder. Arthur entreprit donc la tâche longue et ingrate d'obtenir quelque chose du ministère des circonlocutions. Bientôt on ne vit plus que lui dans les antichambres de ce ministère, où les garçons du bureau le recevaient presque toujours comme un filou dans la greffe d'un commissaire de police. La principale différence qu'il y avait entre ce magistrat et les employés du ministère, c'est que l'un tenait à garder le filou, tandis que les autres faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour se débarrasser de Clennam. Mais cela lui était égal, il était résolu à ne pas lâcher prise. Il y eut donc un véritable déluge d'imprimés à remplir, de lettres, de minutes, de notes, de signatures, de contre-signatures, de contre-contre-signatures, de renvois en avant et en arrière, à droite et à gauche, en diagonale et en zigzag. Ici se présente un trait caractéristique du ministère des circonlocutions que nous n'avons pas encore enregistré. Lorsque cette admirable institution s'attirait des désagréments et se voyait attaquée par quelqu'un de ses enragés députés, que les mollusques du second ordre regardaient comme un possédé du démon, non pas à propos d'une bévue particulière, mais comme étant une institution tout à fait abominable et digne au plus des petites maisons, alors le noble ou très honorable mollusque, chargé de représenter ce ministère à la Chambre, tombait sur ce membre mal avisé et le pourfendait sans autre arme que la déclaration pure et simple de la quantité de besogne que ce ministère avait expédiée, d'autres diraient entravée, dans un temps donné. Alors le noble ou très honorable mollusque en question se présentait, tenant à la main un papier contenant quelques chiffres, auxquels il priait la Chambre de vouloir bien accorder toute son attention. Alors les mollusques de second ordre, obéissant à une consigne, s'écriaient « Écoutez, écoutez, écoutez !» ou « Lisez !» Alors le noble ou très honorable orateur sentait, Monsieur le Président, d'après ce petit document, qui, selon lui, devait porter la conviction dans l'esprit même le plus borné, rires ironiques et bravos de la part des mollusques inférieurs, que durant le dernier semestre, ce ministère si calomnié, marque d'approbation, avait écrit ou reçu 15 000 lettres. Bravo ! 24 000 minutes, nouveaux applaudissements, et 32 517 rapports, bravo frénétiques. Qui plus est, un ingénieur gentleman attaché à ce ministère avait eu l'obligeance de faire un calcul assez curieux sur la quantité de papier et d'autres fournitures employées dans les divers bureaux du dit ministère. Ce calcul était annexé au petit document qu'il venait déjà de citer, et il épuisait le fait remarquable que les feuilles de papier ministre qu'on y avait consommées pour le service public pendant le semestre dernier suffiraient pour couvrir dans toute leur longueur les deux trottoirs d'Oxford Street et laisseraient même de quoi tapisser un demi-mille de parc voisin. Bravo, formidables et rires. Tandis que d'un autre côté, on y avait usé assez de ficelles rouges officielles, pour orner de gracieux festons toutes les rues, depuis le coin de Hyde Park jusqu'à la Grande Poste. Alors, au milieu d'une bruyante manifestation ministérielle, le noble et très honorable mollusque s'asseyait, laissant sur le champ de bataille les membres épars de l'imprudent agresseur. Après cette démolition exemplaire du coupable, il ne se trouvait plus personne pour oser dire que, plus le ministère faisait de besogne, moins les affaires marchaient, et que le plus grand service qu'il pût rendre au malheureux public, ce serait de ne rien faire du tout. Arthur, ayant assez d'occupations sur les bras, grâce à cette tâche supplémentaire qui avait suffi pour faire mourir à la peine plus d'un homme utile, menait une existence assez monotone. Il ne prenait pas, depuis plusieurs mois, d'autres distractions que de faire ses visites régulières à la triste chambre de la paralytique et ses visites presque aussi régulières à la villa Meagles. La petite Dorrit lui manquait cruellement. Il savait bien qu'en partant, elle laisserait un vide dans son existence, mais il ne se doutait pas que ce vide dût être si grand. L'expérience seule lui apprit quelle place importante cette familière petite figure occupait dans sa vie et quel vide elle laissait derrière elle. Il sentit aussi qu'il fallait abandonner tout espoir de la revoir, car il connaissait trop bien le caractère de la famille Dorrit pour ne pas être convaincu que la jeune fille et lui étaient désormais séparés par une distance infranchissable. L'intérêt qu'elle lui avait inspiré et la confiance qu'elle lui avait témoignée avaient pris dans son esprit une teinte de tristesse grâce à la rapidité avec laquelle il s'était enfui et s'était confondu dans le passé avec les autres affections tendres dont il n'avait plus que le regret. Lorsqu'il reçut la lettre d'Aimé, il fut très ému, mais il n'en sentit pas moins qu'ils étaient séparés désormais par des obstacles plus sérieux que la distance. Cette lettre lui permit de voir plus clairement aussi la place que la famille Dorrit assignait à celui qui les avait obligés autrefois. Il vit que la petite Dorrit lui conservait en secret un tendre et reconnaissant souvenir, mais que les autres le confondaient dans leur mémoire avec la geôle et le reste de leur passé peu glorieux. Dans ses méditations, qui remplissaient toutes ses journées, il la voyait au contraire toujours telle qu'elle était autrefois. C'était son innocente amie, sa délicate enfant, sa chère petite Dorite. Le changement de fortune qui la lui avait enlevée ne fit que le confirmer dans l'habitude qu'il avait prise le soir où les roses avaient été emportées par le courant, de se regarder comme un homme beaucoup plus âgé qu'il ne l'était en effet. Il y avait dans l'affection qu'il portait à la petite Dorite quelque chose de tendre, mais de paternel, qui eût causé à la jeune fille une angoisse dont il ne se doutait guère. Il songeait à l'avenir de sa petite amie, au mari qu'elle épouserait, avec un désintéressement qui eût brisé le cœur de la pauvre enfant en lui enlevant jusqu'à la dernière lueur d'espérance. Tout ce qui l'entourait l'entretenait dans cette habitude de se regarder comme un homme âgé, qui avait désormais dit adieu pour toujours à ses sentiments, contre lesquels il avait eu à lutter à propos de Minnie Gowan, il n'y avait déjà pas si longtemps de cela, à ne compter que les mois et les saisons. Ses rapports avec M. et Mme Meagles étaient d'un gendre veuf avec les parents de sa femme. Si la sœur jumelle de Minnie, au lieu de mourir tout enfant, avait atteint la fleur de l'âge, et que Clennam l'eût épousée, la nature de ses relations avec les parents n'aurait pas été différente. Tout cela contribua insensiblement à lui mettre dans l'esprit qu'il était d'âge à renoncer au sentiment pour lequel il n'était plus fait. Il apprenait d'eux invariablement que Minnie leur répétait dans ses lettres qu'elle était heureuse et qu'elle aimait son mari. Mais, invariablement aussi, il voyait l'ancien usage assombrir les traits de M. Meagles dès qu'il parlait de sa fille. Depuis le mariage, il n'avait jamais été aussi radieux qu'autrefois. Il se ressentait encore de la douleur que lui avait causé le départ de Chérie. Il n'avait rien perdu de son humeur bonne, naturelle et franche. Mais comme si ses traits, à force de contempler sans cesse les portraits de ses filles, qui ne pouvaient lui renvoyer qu'une expression toujours la même, leur auraient emprunté, sans le savoir, cette uniformité, son visage dans tous les jeux divers de sa physionomie avait toujours au fond l'expression du regret. Un samedi soir, pendant l'hiver, Clennam se trouvait à la Villa Meagles lorsque Madame Gowan, la mère, arriva dans l'équipage des invalides distingués de Hampton Court, cet équipage, vous savez, qui devait feindre d'être tour à tour la propriété exclusive du locataire du jour. Elle en descendit, à l'ombre de son grand éventail vert, pour honorer d'une visite M. et Madame Meagles. « Comment allez-vous, papa Meagles? Et vous, maman Meagles ?» demandait-elle d'un ton courroucé à ses humbles alliés. « Quand avez-vous reçu des nouvelles directes ou indirectes de mon pauvre garçon ?»« Mon pauvre garçon » voulait dire « mon fils ». Et cette façon de parler servait, sans que personne eût le droit de s'en offenser le moins du monde, à entretenir la fiction que l'infortuné était tombé victime de ces intrigants de Meagles. « Et cette jolie enfant ?» continua Madame Gowan. « En avez-vous des nouvelles plus récentes que les miennes ?» Jolie enfant donnait aussi à entendre, d'une manière délicate, que c'était cette beauté de chérie qui avait seule captivé son fils et lui avait fait faire le sacrifice d'une foule d'avantages qui l'attendaient dans le monde. « C'est vraiment une grande consolation, » poursuivit la dame, sans se fatiguer à prêter beaucoup d'attention aux réponses qu'elle recevait. « C'est une consolation inexprimable de savoir qu'ils sont toujours heureux. Mon pauvre garçon est un naturel si volage, il est tellement habitué à courir et à promener son inconstance parmi une foule de gens qui l'idolâtrent, que l'assurance du bonheur de leur ménage est vraiment pour moi la plus grande consolation du monde. Je présume qu'ils sont gueux comme des rats, papa Meagles. J'espère bien que non, madame, répondit M. Meagles, agacé par cette question. J'espère qu'ils sauront bien administrer leurs petits revenus. Oh non, cher Meagles, répliqua la dame, lui donnant une tape sur le bras avec son éventail vert, qu'elle releva adroitement pour cacher un bâillement à la compagnie. Comment un homme de votre expérience, un homme d'affaires comme vous, car vous savez que sous ce rapport, vous êtes beaucoup trop fort pour nous, qui ne connaissons rien à ces choses-là. C'était encore une manière de faire entendre que M. Meagles était un habile intrigant. Comment pouvez-vous parler de bien administrer leurs petits revenus ? Mon pauvre cher garçon, administrez quelques centaines de guinées. Et la belle jolie donne, la voyez-vous administrer ça, papa Meagles ? Vous voulez plaisanter.
Eh bien, madame, répondit gravement M. Meagles, je regrette d'être obligé d'avouer qu'Henri a déjà fait des dettes.
Mon cher bonhomme, je ne fais pas de cérémonie avec vous, parce que nous sommes presque parents.
Mais oui, maman Meagles, s'écria Mme Gowan, comme si c'était là une idée absurde qui la frappait pour la première fois, il y a entre nous une espèce de parenté. Mon cher brave homme, dans ce monde, on ne peut pas tout avoir.
Nouvelle manière d'insinuer avec toute la politesse possible que jusqu'alors le succès avait couronné les affaires de cet intrigant de Meagles. Madame Gowan trouva l'idée si bonne qu'elle appuya dessus en répétant « Pas tout !»«
Non, non, papa Meagles, dans ce monde, on ne peut pas tout avoir. »
« Et oserais-je vous demander, madame, riposta M. Meagles, le teint un peu plus animé que de coutume, qui s'attend à tout avoir dans le monde ?»«
Oh, personne, personne !» répondit Madame Gowan. « J'allais dire, mais vous m'avez fait oublier, questionneur que vous êtes, qu'allais-je donc vous dire ?»
En baissant son grand éventail vert, elle contempla M. Meagles d'un air rêveur, cherchant à recueillir ses idées. Ce qui ne contribua nullement à calmer l'irritation de ce gentleman.
« Ah, j'y suis. Oui, c'est cela, » reprit Mme Gowan.
« Il faut vous rappeler que mon pauvre garçon a toujours été habitué à entretenir certaines espérances. Peut-être ces espérances ont-elles été réalisées, peut-être ne l'ont-elles pas été.
« Autant dire tout de suite qu'elles ne l'ont pas été, » interrompit M. Meagles.
Madame Gowan lui adressa un coup d'œil irrité. Mais elle repoussa cette velléité de colère avec un hochement de tête et un geste de son éventail, et continua sans changer de ton. « Au reste, cela ne fait rien à l'affaire. Mon pauvre garçon a été habitué à ce genre de choses-là. Vous ne l'ignoriez pas, et vous deviez donc vous attendre aux conséquences. Moi-même, j'ai clairement prévu ces conséquences, aussi n'en suis-je nullement étonné.
Vous non plus, papa Meagles, vous ne devez pas l'être. Impossible que vous le soyez, vous avez dû prévoir tout cela. »
M. Meagles regarda sa femme, puis la dame se mordit les lèvres et toussa.
« Et voilà mon pauvre garçon, poursuivit Mme Gowan, à qui l'on fait part, en fait d'espérance, qu'il y a un petit chérubin en expectative, avec toutes les dépenses qui s'ensuivent pour subvenir à cette addition de famille. Pauvre Henri ! Mais ce qui est fait, est fait. Il est trop tard maintenant pour y remédier. Seulement, papa Meagles, ne parlez pas trop des dettes qu'ils ont pu faire, comme d'une découverte, parce que ce serait par trop fort.
Trop fort, madame, dit M. Meagles, comme s'il demandait une explication.
Là, là, s'écria Mme Gowan, remettant papa Meagles à sa place par un geste expressif de sa main.
Certainement, ce serait trop fort pour la mère de mon pauvre garçon.
Elle n'aurait pas la force de supporter cela.
Ils sont mariés, et nous ne pouvons pas faire qu'ils ne le soient pas.
Là, là, je sais cela.
Vous n'avez pas besoin de me le dire, papa Meagles. Je le sais parfaitement bien.
Que disais-je donc tout à l'heure ?
Que c'est une grande consolation qu'ils continuent à vivre heureux ensemble.
Il faut espérer que cela durera.
Il faut espérer que la jolie enfant fera tout ce qu'elle peut pour rendre mon pauvre garçon heureux et satisfait.
Papa et maman Meagles, n'en parlons plus.
Nous n'avons jamais envisagé cette question du même point de vue, et nous ne changerons pas.
Là, là, c'est fini, je ne dirai plus rien.
Il est certain que Madame Gowan, maintenant qu'elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire pour conserver sa position mythologique au milieu des nuages et pour avertir M. Meagles qu'il ne devait pas se figurer qu'on le laisserait jouir en paix des honneurs d'une pareille alliance, était toute disposée à ne pas abuser de sa victoire en poussant les choses trop loin. Si M. Meagles avait voulu écouter le coup d'œil de sa femme ou le geste expressif de Clennam, il aurait permis à la dame de s'éloigner dans toute la joie du triomphe. Mais chérie était les délices et l'orgueil de son cœur. S'il avait jamais pu la défendre avec plus de dévouement, ou l'aimer avec plus de tendresse qu'au jour où elle était le soleil de sa maison, c'eût été maintenant, maintenant qu'elle n'en faisait plus le charme et la grâce, maintenant qu'elle était perdue pour eux. « Madame Gawain, dit M. Meagles, j'ai toujours été un homme tout rond. Je voudrais essayer de me livrer à des mystifications élégantes, soit pour me tromper moi-même, soit pour tromper les autres, soit pour me tromper moi-même en trompant les autres, que très probablement je n'y réussirai pas. » « Papa Meagles, répondit Madame Gawain avec un sourire affable, tandis que l'incarnat de sa joue paraissait plus vif que de coutume, à mesure que le reste de son visage devenait plus pâle, c'est très probable. Par conséquent, ma bonne dame, continua M. Meagles, qui avait beaucoup de peine à se contenir, j'espère que je puis, sans blesser personne, prier les autres de vouloir bien m'épargner des mystifications de ce genre.
Maman Meagles, remarqua Madame Gawain, votre brave homme est incompréhensible ce soir.
En s'adressant à cette digne lady, Madame Gawain comptait lui faire prendre part à la discussion afin de lui chercher noise et de remporter sur elle une victoire facile. Mais M. Meagles intervint pour déconcerter cette ruse de guerre. « Mère, dit-il, vous n'êtes pas de force, ma chère. Les armes ne sont pas égales. Je vous prie donc de me laisser répondre. Voyons, Madame Gawain, voyons. Tâchons d'avoir du bon sens et d'avoir avec cela un peu de bon cœur et de loyauté. Ne plaignez pas Henri, votre fils, ma chère dame. Ce ne serait pas raisonnable ni juste. Ne disons pas que nous espérons que Minnie rendra votre fils heureux, ni même que nous espérons que votre fils fera le bonheur de Minnie. » M. Meagles n'avait pas lui-même l'air très heureux en prononçant ces paroles. « Mais disons que nous espérons qu'ils se rendront heureux mutuellement. »« C'est évident, restons-en là, père, » dit la bonne et conciliante Madame Meagles. « Mais non, ma mère, » répliqua M. Meagles, « pas encore. Tout à l'heure. Je ne puis en rester là. J'ai encore quelques mots à dire. Madame Gawain, j'espère que vous ne me trouvez pas trop excité. Je crois que je n'en ai pas l'air. » « Bien au contraire, » répondit Madame Gawain, secouant à la fois sa tête et son éventail vert, afin de donner plus d'énergie à cette dénégation. « Merci, madame. Très bien. Néanmoins, je me sens un peu... Je ne voudrais pas me servir d'une expression trop forte. Dirais-je un peu blessé ?» demanda M. Meagles d'un ton conciliateur, plein de franchise et de modération. « Vous n'avez qu'à dire comme vous voudrez, cela m'est parfaitement indifférent. » « Non, non, ne répondez pas ainsi, ce ne serait pas aimable. Je me sens un peu blessé lorsque j'entends dire que l'on a dû prévoir ce qui arrive, qu'il est trop tard maintenant et le reste. » « Vraiment, papa Meagles, eh bien, cela ne m'étonne pas du tout. » « Tant pis, madame, riposta M. Meagles. J'espérais au moins que cela vous aurait étonné et que vous n'auriez pas cru généreux de venir de gaieté de cœur me blesser dans un endroit aussi sensible. Je ne suis nullement responsable, vous savez, des reproches que peut vous adresser votre conscience. Le pauvre M. Meagles demeura immobile de surprise. Si par malheur vous vous reconnaissiez dans mes paroles, poursuivit Madame Gawain, à qui la faute? Si vous sentez où le bas vous blesse, ce n'est pas à moi qu'il faut en vouloir, papa Meagles.
Mais morbleu, madame, s'écria M. Meagles, cela revient à dire...
« Allons, papa Meagles, papa Meagles !» interrompit Madame Gawain, qui s'exprimait avec un sang-froid et une amabilité extrême dès que son interlocuteur s'échauffait le moins du monde. « Peut-être, afin d'éviter les méprises, ferais-je mieux de parler moi-même en mon nom que de vous laisser prendre la peine de parler pour moi. Cela revient à dire, avez-vous commencé? Avec votre permission, j'achèverai la phrase. Cela revient à dire... Non que je tienne à appuyer là-dessus, ni même à vous le rappeler, car cela ne servirait à rien, mon unique désir est au contraire d'en sortir le moins mal possible, que depuis le commencement, je me suis opposé à ce mariage de votre invention, et que je n'y ai consenti qu'à contre-cœur et au dernier moment.
« Mère !» s'écria M. Meagles. « Entendez-vous cela ? Arthur, entendez-vous ce que dit madame ?»
Comme la salle est d'une dimension commode, dit Madame Gawain, en regardant autour d'elle sans cesser de s'éventer. et à tous égards, on ne peut mieux disposer pour les charmes de la conversation, je me figure que tout le monde a dû m'entendre. » Il s'écoula quelques minutes avant que M. Meagles pût se cramponner à sa chaise avec assez de fermeté pour s'empêcher de faire un bond au premier mot qu'il dirait en réponse. « Madame, dit-il enfin, je regrette que vous m'y obligiez, mais vous me permettrez de vous rappeler la conduite et le langage que j'ai tenu depuis le commencement. » « Oh, mon cher monsieur, répliqua Madame Gawain, souriant et hochant la tête avec un air d'intelligence accusatrice, je les ai parfaitement compris, je vous assure. Avant cette époque, madame, continua M. Meagles, je n'avais jamais su ce que c'était que le chagrin. Oh non, je n'avais jamais connu l'inquiétude et la peine, et ça a été pour moi une épreuve si douloureuse que M. Meagles, en un mot, ne put en dire davantage à ce sujet, et se cacha le visage dans son foulard. J'ai parfaitement compris toute l'affaire, reprit Madame Gawain, regardant tranquillement par-dessus son éventail. Puisque vous en avez appelé à M. Clennam, vous me permettrez d'en appeler à lui à mon tour. Il sait si j'ai été prise ou non pour dupe. Il me répugne, répondit Clennam, vers qui tous les regards venaient de se diriger, de prendre part à cette discussion, attendu que je désire demeurer en bonne intelligence avec M. Henry Gawain. J'ai des motifs très sérieux pour le désirer. Madame Gawain, il est vrai, dans une conversation que j'ai eue avec elle avant le mariage, a attribué à mon ami, M. Meagles, le dessein de conclure cette union, et j'ai essayé de la détromper. Je lui ai dit que je savais, et c'était vrai, je le sais mieux que jamais, que M. Meagles s'y est fermement opposé en parole et en action jusqu'au dernier moment. Là, dit Madame Gawain, tournant vers M. Meagles la paume de ses mains étendues, comme si elle représentait la justice en personne, et conseillait au coupable d'avouer son crime, puisqu'il y avait contre lui des preuves écrasantes. « Vous voyez, très bien. Maintenant, papa et maman Meagles, ici Madame Gawain se leva, je prendrai la liberté de mettre un terme à cette formidable controverse. Je ne dirai plus un mot de la justice de ma cause. » J'ajouterai seulement que c'était là une nouvelle preuve de ce que l'expérience a déjà démontré mille fois. Ces choses-là ne tournent jamais bien, ou, comme dirait mon pauvre garçon, on en est pour ses frais. Bref, cela ne réussit jamais. « Quel genre de choses ? » demanda M. Meagles. C'est en vain que des personnes qui ont des antécédents si dissemblables chercheraient à s'apparier ensemble. Lorsqu'un étrange hasard matrimonial vient d'aventure les bousculer ensemble, plutôt que les atteler les unes avec les autres, il est impossible qu'elles voient du même point de vue l'accident qui les a rapprochées violemment. Cela ne réussit jamais. Permettez-moi de vous faire observer, madame, commença M. Meagles. Non, non, l'interrompit Madame Gawain. À quoi bon? N'est-ce pas un fait avéré? Cela ne réussit jamais. Donc, s'il vous plaît, je suivrai mon chemin et vous le vôtre. Cela ne m'empêchera pas de recevoir toujours avec plaisir la jolie femme de mon pauvre garçon, et je m'efforcerai de vivre avec elle dans les termes les plus affectueux. Mais quant à ces relations où l'on ne sait si l'on est avec des parents ou des étrangers, il n'y a rien de plus agaçant ni de plus assommant, si bien que cela finit par un état de choses trop grotesque pour pouvoir durer. Je vous assure que cela ne réussit jamais. » Madame Gawain adressa un salut souriant au salon plutôt qu'à ceux qui s'y trouvaient, et fit ses adieux à papa et à maman Meagles. Clennam se leva pour la reconduire jusqu'à la boîte à pilules qui servait alternativement de bonbonnière à toutes les pilules de Hampton Court. La pensionnaire de l'État monta dans ce véhicule avec une sérénité distinguée et roula. À partir de ce jour, cette dame se plut à raconter à ses amis, d'un ton de badinage enjoué, comment, après bien des efforts, elle avait découvert qu'il n'y avait pas moyen de connaître les parents de la femme d'Henri, ces gens qui avaient tant intrigué pour attirer son pauvre garçon. Avait-elle réfléchi d'avance qu'en se débarrassant d'eux, elle donnerait meilleur air à son mensonge favori, s'épargnerait quelques visites ennuyeuses et ne courrait aucun risque, puisque la jolie enfant était bel et bien mariée et que son père l'aimait à la folie. Madame Gawain, la mère, pourrait seule répondre à cette question. Néanmoins, l'auteur de la présente histoire a aussi son opinion à cet égard, et il est décidément pour l'affirmative. Chapitre 9. Paraît, disparaît. « Arthur, mon garçon, dit M. Meagles le lendemain soir, mère et moi, nous avons causé de notre entrevue d'hier, et nous ne serions pas à notre aise si nous laissions les choses dans cet état. Cette élégante parente à nous, cette chère dame que vous avez vue hier, je comprends, dit Arthur. Cet ornement de la société, malgré sa condescendance et son affabilité, pourrait bien nous représenter sous un faux jour. Nous sommes prêts à endurer bien des choses par amour pour chérie, mais si ça lui était égal, nous aimerions mieux ne pas laisser sans réponse les insinuations de cette dame. « Bon, dit Arthur, continuez. Car, voyez-vous, poursuivit M. Meagles, cela pourrait nous faire du tort dans l'esprit de notre gendre, cela pourrait même nous faire du tort dans l'esprit de notre fille, et causer beaucoup de désagréments domestiques. Vous comprenez ça, n'est-ce pas ?»« Certainement, répliqua Clennam, il y a beaucoup de raisons dans ce que vous dites. » Il venait de regarder Mme Meagles, qui était toujours du côté du pont, et il avait lu dans son visage ouvert qu'elle le priait de donner raison à M. Meagles. De sorte que nous sommes fort disposés, mère et moi, ajouta M. Meagles, à faire nos mal pour nous en retourner chez les en avant-marchons. Je veux dire que nous sommes fort disposés à nous mettre en route et à traverser la France au galop pour aller en Italie retrouver notre chérie. « Et je ne crois pas, répondit Arthur, touché par le bonheur qui éclairait par anticipation le visage de Mme Meagles, elle avait dû ressembler beaucoup à sa fille autrefois, que vous ayez rien de mieux à faire. Si donc vous me demandez mon avis, je vous conseille de partir demain. »« Bien vrai, hein ? » dit M. Meagles. « Mère, voilà ce que j'appelle une approbation en règle. » Mère, avec un coup d'œil de reconnaissance qui fit beaucoup de plaisir à Arthur, répondit qu'en effet, on ne pouvait mieux les confirmer dans leur avis. D'ailleurs, reprit M. Meagles, pendant que l'ancien nuage revenait assombrir son front, d'ailleurs, le fait est que mon gendre a déjà contracté de nouvelles dettes, et je suppose qu'il me faudra le tirer d'embarras encore une fois. Quand il n'y aurait que ce motif-là, nous ferons peut-être aussi bien d'aller là-bas en amis, voir un peu ce qui s'y passe. Et puis, voilà mère qui s'inquiète trop, c'est assez naturel pourtant, de la santé de chérie et qui désire qu'elle ne soit pas seule dans un moment comme celui-là. Toujours est-il, Arthur, que notre pauvre chérie est bien loin et qu'elle doit se trouver bien isolée au milieu d'une ville étrangère dans les circonstances actuelles. On aura beau la soigner aussi bien que la plus grande dame du pays, elle n'en est pas moins très loin, car si le dicton populaire nous répète qu'il n'y a pas de petit chez soi, avec votre permission, j'ajouterai ceci au proverbe, c'est qu'on a beau être à Rome, on n'est pas pour cela chez soi. C'est parfaitement exact, répondit Clennam. Voilà plus de raisons qu'il n'en faut pour partir. Je suis charmé que vous pensiez comme moi. Cela me décide. Mère, ma chère, tu peux commencer tes préparatifs. Nous avons perdu notre bonne petite interprète. Elle parlait à ravir trois langues étrangères, Arthur, vous l'avez entendu bien des fois. C'est donc toi, mère, qui seras obligée de me tirer d'embarras comme tu pourras. À l'étranger, j'ai toujours besoin de quelqu'un pour me tirer d'embarras, dit M. Meagles, hochant la tête. Je m'embourbe à chaque instant. Je vais bien encore jusqu'au nom substantif, mais passé cela, je m'embrouille. Et encore le substantif lui-même suffit quelquefois pour me tenir au gosier, pour peu qu'il soit coriace. Mais j'y pense, répliqua Clennam, Cavaletto est à votre service. Il ira avec vous si vous voulez. Je ne voudrais pas le perdre, mais je sais que vous me le ramènerez. « Je vous remercie, Arthur, » répliqua M. Meagles, réfléchissant à cette proposition. « Mais je ne crois pas que je profite de votre offre. Non, je me laisserai remarquer par mère. Cavalluro, voilà déjà un nom qui à lui seul suffit pour m'embourber avant de partir. Cela ressemble au refrain d'une de nos chansons à boire. Cavalluro, vous êtes trop utile. Je ne veux pas vous en priver. » D'ailleurs, Dieu sait quand nous reviendrons, et on ne peut pas vous l'enlever pour un temps indéfini. La maison n'est plus ce qu'elle était. Elle ne renferme que deux petits êtres de moins qu'elle n'en renfermait autrefois. Chérie et son infortunée bonne, Tatticoram. mais elle nous paraît bien vide maintenant. Une fois en route, nous ne savons pas quand nous reviendrons. Non, Arthur, me voilà bien décidé à me laisser remorquer par mer. » Clennam pensa qu'en somme, il se tirerait peut-être mieux d'affaire tout seul, et il n'insista pas. « Si vous voulez bien venir ici de temps en temps et y rester pour vous reposer et changer d'air, lorsque cela ne vous ennuiera pas trop, reprit M. Meagles, je serai heureux. Et mère aussi sera heureuse, j'en suis sûr, de penser que notre vieille demeure, entièrement déserte, et que les deux enfants qui nous regardent là sur la muraille ont quelqu'un pour leur renvoyer un coup d'œil d'amitié. Vous appartenez tellement à la maison, Arthur, vous êtes tellement de la famille, et nous aurions tous été si heureux si cela avait pu se faire. Mais voyons un peu. Quel temps fait-il pour voyager ?» M. Meagles se tut, toussa, et se leva pour aller regarder par la croisée. Tout le monde fut d'accord pour trouver que le temps promettait d'être magnifique, et Clennam eut soin de ne pas laisser la conversation empiéter sur un terrain plus dangereux, jusqu'à ce qu'elle fût devenue plus calme. Alors il commença peu à peu à parler d'Henry Cowan, de sa vive intelligence et des aimables qualités qu'on lui trouvait lorsqu'on savait le prendre. Il appuya aussi sur l'affection sincère que l'artiste avait pour sa femme. Clennam ne manqua pas de produire l'effet voulu sur le digne M. Meagles, dont ses éloges ranimèrent la gaieté et qui prit mère à témoin que son vœu le plus cher était de vivre en bonne amitié et en bonne intelligence avec son gendre. En quelques heures, les meubles furent enveloppés pour les défendre contre la poussière pendant l'absence de la famille, ou, selon l'expression de M. Meagles, on fit la toilette de nuit à la maison et on lui mit les cheveux en papillote, et quelques jours plus tard, père et mère étaient partis. Madame Tickett et le traité de médecine du docteur Bacon montaient la garde comme autrefois, derrière le store de la salle à manger, et les pieds d'un promeneur solitaire écrasaient les feuilles mortes dans les allées du jardin désert. Comme il aimait cet endroit, il laissa rarement passer une semaine sans y retourner. Quelquefois, il y restait tout seul depuis le samedi jusqu'au lundi matin. D'autres fois, son associé l'accompagnait. D'autres fois encore, il ne faisait que de se promener une heure ou deux dans la maison et dans le jardin, puis, après s'être assuré que tout était en ordre, il s'en retournait à Londres. Il trouvait toujours Madame Tickett assise à la fenêtre de la salle à manger, attendant le retour de la famille, coiffée de son tour de cheveux noirs et armée de son traité de médecine. Dans une de ses visites, Madame Tickett le reçut avec ces paroles. « Monsieur Clennam, j'ai à vous dire quelque chose qui vous surprendra. » Le quelque chose en question était une nouvelle si étonnante que Madame Tickett avait quitté sa croisée favorite pour se montrer dans une allée du jardin lorsque Clennam y pénétra par la grille qu'on venait de lui ouvrir. « De quoi s'agit-il, Madame Tickett » demanda-t-il. « Monsieur, répondit la fidèle dame de charge, après l'avoir conduit dans la salle à manger dont elle referma la porte, « où je n'ai jamais vu de ma vie cet enfant égaré et aveuglé, où c'est elle que j'ai vue hier soir en chair et en os à l'heure du crépuscule. » « Vous ne voulez pas dire, Tati, Coram, mais si !» interrompit Madame Tickett, achevant du coup sa confidence. « Où cela ?»« Monsieur Clennam, répliqua Madame Tickett, j'avais les yeux un peu appesantis, sans doute pour avoir attendu un peu plus longtemps que d'habitude monter, que Marie-Jeanne était en train de préparer. Je ne dormais pas. On ne peut pas même dire que je sommeillais. Ce serait plutôt ce qu'on appelle veiller les yeux fermés. » Sans demander une explication plus détaillée de cette situation anormale si curieuse, Clennam se contenta de dire « Je comprends. Et après ?»« Après, monsieur, continua Madame Tickett, je pensais à une chose ou à une autre, absolument comme vous pourriez le faire vous-même, comme le premier venu pourrait le faire. Précisément. Ensuite ?»« Et je n'ai pas besoin de vous dire, monsieur Clennam, que quand je me mets à songer à une chose ou à une autre, poursuivit Madame Tickett, je pense à la famille. Car, Dieu merci, continua-t-elle, en prenant un air d'argumentation philosophique, nos pensées ont beau s'égarer, elles roulent plus ou moins sur ce qui nous trotte dans la tête, bon gré mal gré, monsieur, et personne ne peut les en empêcher. » Arthur reconnut par un signe de tête la vérité de cette découverte. « Vous savez cela par vous-même, monsieur, j'ose le dire, » reprit Madame Tickett. « Nous le savons tous par nous-mêmes. Ce n'est pas notre position dans le monde qui peut rien changer à cela, monsieur Clennam. Les pensées sont libres. J'étais donc en train de penser à une chose ou à une autre, et surtout à la famille. Non pas à la famille d'aujourd'hui seulement, mais à celle d'autrefois. Car, à mon avis, dès qu'on se met à penser à une chose ou à une autre, il semble que le jour commence à baisser dans l'intelligence, et comme on y voit plus clair, tous les temps semblent présents, et il faut du temps quand on sort de cet état-là pour réfléchir et savoir où on en est. Arthur fit encore un signe de tête. Il se serait bien gardé de prononcer une parole, de peur de fournir à Madame Tickett une nouvelle occasion de faire montre de ses facultés conservatives. Par conséquent, ajouta Madame Tickett, lorsque j'ouvris les paupières et que je la vis regardant en chair et en os à travers la grille, je les refermai sans seulement tressaillir, car elle se trouvait là, juste au moment où, dans ma pensée, elle appartenait à la maison comme vous et moi, de sorte que je n'avais pas songé alors qu'elle s'était sauvée. Mais, monsieur, lorsque je rouvris les paupières une seconde fois, et que je vis qu'elle n'était pas là, j'eus de suite la chair de poule, et je me levai d'un bond. « Et vous avez couru dehors ?»« Aussi vite que mes pieds ont pu me porter. » Mais vous me croirez, si vous voulez, monsieur Clennam, on n'apercevait pas même dans toute la vaste étendue du ciel le petit doigt de cette jeunesse. Arthur, passant naturellement sur l'absence de cette constellation d'un nouveau genre, demanda à Madame Tickett si elle avait elle-même franchi la grille. « Je suis sorti, je suis revenu, je suis allé de tous les côtés, répondit la dame, et pas la moindre trace de Tattycoram. » Il demanda ensuite à Madame Tickett combien elle supposait que s'était écoulé de temps entre les deux élévations de paupières dont elle avait parlé. Madame Tickett, bien qu'elle fît à cette question une réponse minutieuse et circonstanciée, hésitait entre 5 secondes et 10 minutes. Il paraissait si évident qu'elle ne savait à quoi s'en tenir à cet égard et qu'elle avait été réveillée en sursaut que Clennam était disposé à regarder toute cette vision comme un rêve. Sans blesser la susceptibilité de Madame Tickett, en lui confiant cette solution incivile du grand mystère qui la troublait, il se contenta de garder son incrédulité pour lui, et c'est probablement ce qu'il aurait fait jusqu'à la fin de ses jours, sans une circonstance qui vint le faire changer d'avis. Il descendait le Strand à la nuit tombante, précédé par la lumeur de réverbère, à l'approche duquel les lanternes, ternies par le brouillard, s'illuminaient l'une après l'autre comme autant de tournesols qui se seraient épanouis d'un coup, lorsqu'une file de voitures chargées de charbon et venant d'un des entrepôts du quai obligea les piétons à s'arrêter un instant sur le trottoir. Clennam, qui avait marché assez vite, s'abandonnait au courant de quelques rêveries, et la brusque interruption apportée à cette double opération de son esprit et de ses pieds fit qu'il regarda autour de lui d'un air ébahi, ainsi qu'il arrive à la plupart des gens en pareille circonstance. Il aperçut alors devant lui, il se trouvait séparé d'eux par quelques passants, mais pas assez néanmoins pour qu'il ne pût pas, s'il avait voulu, les toucher en allongeant le bras, Tattycoram avec un inconnu d'un aspect assez remarquable. C'était un homme à l'air fanfaron, au grand nez recourbé, dont la moustache noire était aussi fausse de ton que ses yeux étaient faux d'expression. À sa manière de draper son lourd manteau, il était facile de reconnaître un étranger. Sa toilette annonçait un voyageur, et il paraissait n'avoir rejoint la jeune fille que depuis quelques instants. Tandis qu'il se penchait, car il était beaucoup plus grand que Tattycoram, pour écouter ce qu'elle lui disait, il regardait derrière lui de l'air soupçonneux d'un homme qui est accoutumé de craindre d'avoir quelqu'un à ses trousses. Ce fut ainsi que Clennam aperçut son visage, au moment où les yeux de l'inconnu parcouraient la foule des piétons sans s'arrêter plutôt sur lui que sur tout autre passant. Il avait à peine retourné la tête, toujours penché pour mieux entendre la jeune fille, lorsque l'embarras cessa et la foule, un moment arrêtée, put continuer son chemin. Se baissant toujours pour écouter Tattycoram, l'inconnu s'avançait à côté d'elle. Clennam les suivit, décidé à obtenir la clé de cette énigme inattendue. Il voulait voir où ils allaient. Au moment où il venait de prendre cette résolution, et elle ne fut pas longue à prendre, il fut de nouveau obligé de s'arrêter tout court. Ceux qu'ils suivaient s'engagèrent tout à coup dans le passage de l'Adelphie, Tatikoram servant évidemment de guide à l'étranger, et s'avancèrent tout droit comme pour gagner la terrasse qui domine la Tamise. En cet endroit, même de notre temps, il y a toujours une brusque interruption de l'activité bourdonnante du Strand. Les mille bruits de cette grande rue s'amortissent tout à coup, comme si l'on venait de se mettre du coton dans les oreilles ou de s'envelopper la tête hermétiquement. À cette époque, le contraste était plus frappant encore qu'il ne l'est aujourd'hui, car il n'y avait pas alors une foule de petites vapeurs sur la rivière, ni d'autres débarcadères que des escaliers de bois très glissants, pas de chemin de fer sur l'autre bord, pas de pont suspendu ni de marché aux poissons dans le voisinage, pas de trafic sur le pont de pierre le plus rapproché, rien qui remuât sur la rivière que les canots des passeurs et les bateaux de charbon de terre. De longues rangées de ces derniers navires, amarrés dans la boue aussi solidement que s'ils ne devaient jamais se remettre à flot, donnaient à la rive un aspect lugubre dès qu'il faisait un peu sombre et refoulaient vers le milieu du fleuve le peu de mouvement qu'on y voyait. À toute heure, après le coucher du soleil, et surtout vers le moment où ceux qui ont quelque chose à manger rentrent chez eux, tandis que la plupart des malheureux qui n'ont rien vont se glisser dans les rues pour mendier ou pour voler, c'était un lieu désert qui dominait une scène plus déserte encore. C'est justement à cette heure que Glenham s'arrêta au coin, suivant des yeux la jeune fille et l'étranger qui descendaient la rue. Ce dernier faisait tant de bruit en marchant sur le pavé sonore que Glenham craignit d'abord d'attirer son attention en y réveillant de nouveaux échos. Mais lorsque le couple mystérieux eut disparu en tournant le coin obscur qui conduisait à la terrasse, il les suivit en affectant aussi bien qu'il le put l'air d'un promeneur oisif. Lorsqu'il tourna le coin sombre, Tatikoram et l'étranger s'avançaient le long de la terrasse vers une personne qui se dirigeait de leur côté. Si Glenham eût vu cette personne seule, dans les mêmes conditions de lumière, de brouillard et d'éloignement, peut-être ne l'aurait-il pas reconnue au premier abord, mais il était mis sur la voie par la présence de Tatikoram et reconnut tout de suite Mademoiselle Wade. Il s'arrêta au coin, regardant du côté de la rue, comme s'il eût donné rendez-vous à quelqu'un qui devait arriver par là, mais sans perdre de vue les trois promeneurs. Lorsque ceux-ci se furent rejoints, l'inconnu ôta son chapeau et salua Mademoiselle Wade. Tatikoram parut le présenter à sa maîtresse, en l'excusant d'être venu trop tôt ou trop tard, ou de je ne sais quoi. Puis elle s'éloigna de quelques pas pour les laisser seuls. Mademoiselle Wade et l'étranger se mirent alors à se promener sur la terrasse. Celui-ci avait l'air extrêmement poli et galant. Mademoiselle Wade, au contraire, semblait extrêmement hautaine et réservée. Lorsqu'ils arrivèrent près du coin et rebroussèrent chemin, elle lui disait « Si je me prive pour cela, monsieur, c'est mon affaire. Ne vous occupez que de ce qui vous regarde, et ne me faites pas de questions. » « Par le ciel, madame !» s'écria l'inconnu avec un nouveau salut. « Si j'ai été indiscret, ne vous en prenez qu'à mon profond respect pour la force de votre caractère et à mon admiration pour votre beauté. » « Je ne demande ni l'un ni l'autre à qui que ce soit, » répondit Mademoiselle Wade, « mais à un homme de votre espèce moins qu'à personne. Continuez votre rapport. »« Me pardonnez-vous ? » demanda l'autre d'un ton de galanterie humilié. « Je vous paye, » répliqua-t-elle. C'est tout ce qu'il vous faut. » Arthur ne put deviner si Tatikoram se tenait à distance parce qu'elle ne devait pas entendre cette conversation ou parce qu'elle savait d'avance de quoi il s'agissait. Quand ils se retournaient au bout de leur promenade, elle se retournait et faisait comme eux. Elle marchait les mains croisées devant elle en regardant la rivière. C'était tout ce qu'Arthur pouvait voir d'elle sans se montrer lui-même. Par un heureux hasard, il y avait là un flâneur qui attendait réellement quelqu'un et qui tantôt se penchait par-dessus la balustrade pour voir la rivière, tantôt se rapprochait du coin obscur pour regarder dans la direction de la rue, de manière que la présence de Glenham appelait moins d'attention. Lorsque Mademoiselle Wade et son compagnon revinrent, celle-ci disait « Il faut que vous attendiez jusqu'à demain. »« Mille pardons, » répondit-il, « mais vraiment c'est bien désagréable. » « Cela ne peut donc pas s'arranger ce soir ?»« Non. Je vous répète que je dois l'aller chercher moi-même avant de vous le donner. » Elle s'arrêta au milieu du chemin, comme pour mettre fin à la conférence. L'inconnu s'arrêta aussi naturellement. Tattikoram se rapprocha d'eux. « Cela me gêne un peu, » dit l'étranger. « Mais, sacrebleu, ce n'est rien en comparaison du service rendu. Je me trouve justement sans argent ce soir. J'ai bien un excellent banquier dans cette ville, mais je préfère ne pas m'adresser à cette maison-là avant de pouvoir tirer sur elle pour une somme assez ronde. » « Henriette, » dit Mademoiselle Wade, « entendez-vous avec lui, avec le gentleman que voilà, pour lui envoyer quelque argent demain. » Elle prononça ces paroles en associant le mot « gentleman » d'une façon qui le rendait plus méprisant que l'accentuation la plus marquée. Puis elle continua tranquillement à s'avancer. L'inconnu se pencha de nouveau et Tattikoram lui parla encore pendant qu'ils suivaient tous les deux Mademoiselle Wade. Clennam regarda alors l'ancienne bonne de Sherry pendant qu'il s'éloignait. Il remarqua que ses yeux noirs et brillants se fixaient sur l'étranger avec un air scrutateur et qu'elle évitait de le toucher en marchant à côté de lui jusqu'au bout de la terrasse. Un pas bruyant et solitaire qui résonna sur le pavé prévint Arthur, qui n'avait pas pu distinguer ce qui se passait dans l'obscurité, que l'inconnu revenait seul. Il gagna le milieu de la chaussée comme s'il se dirigeait vers la balustrade, et l'étranger s'éloigna d'un pas rapide, le haut de son manteau rejeté sur l'épaule, et chantant le refrain d'une chanson française. Clennam se trouvait tout seul maintenant sur la terrasse. Le flâneur avait disparu aussi bien que Mademoiselle Wade et Tattikoram. Plus désireux que jamais de voir ce qu'elle devenait, pour pouvoir en donner quelques nouvelles à son ami M. Meagles, il sortit sur l'extrémité opposée, ayant soin de regarder autour de lui avant d'œuvrer. Il avait deviné qu'elle commencerait peut-être par prendre une direction opposée à celle qu'avaient suivie leurs ci-devant compagnons. Il ne tarda pas, en effet, à les apercevoir près du passage, dans une rue de traverse qui n'aboutissait nulle part et qu'elle n'avait prise, évidemment, que pour laisser à l'inconnu le temps de s'éloigner. Elle descendait tranquillement, bras dessous, d'un côté de l'impasse, puis traversait et remontait de l'autre côté. Mais lorsqu'elles eurent regagné le coin de la rue, elles reprirent l'allure régulière des gens qui ont un but en vue et une certaine distance à parcourir. Elles se mirent à marcher assez rapidement et Clennam hâta le pas afin de ne pas les perdre des yeux. Traversant le Strand et Covent Garden, sous les croisées de son ancien logement où la petite Dorrit était venue lui rendre visite un soir, elles se dirigèrent en diagonale vers le nord-ouest, passant devant le vaste hôpital auquel Tattikoram avait emprunté une partie de son nom, et gagnèrent Gray's Inn Road. Clennam était dans ce quartier-là comme chez lui, grâce à Flora, qui l'y connaissait, sans parler du patriarche ni de Punks, et elle n'eut pas de peine à les suivre de loin. Il commençait à s'étonner et à se demander où ils allaient se rendre après, mais sa surprise augmenta lorsqu'il les vit entrer dans la rue du Patriarche. Cette surprise ne fit que croître et embellir en les voyant s'arrêter devant la porte patriarcale. Un double coup de marteau assez discret, une clarté sur la chaussée à travers la porte ouverte, un court intervalle pour adresser une question à la bonne et recevoir la réponse, puis les deux visiteuses entrèrent et la porte se referma. Après avoir regardé autour de lui afin de s'assurer qu'il ne rêvait pas, et s'être promené quelques minutes devant la maison, Arthur frappa à son tour. La porte lui fut ouverte par la même bonne, qui prit le même empressement qu'autrefois à le conduire au salon de Flora. Flora n'avait personne avec elle que la tante de M. Finching. Cette respectable dame, se prélassant dans une atmosphère embaumée de thé et de rôti au beurre, était installée au coin du feu dans un confortable fauteuil, avec une petite table à côté d'elle et un mouchoir blanc étendu sur ses genoux, où deux tartines de pain grillé, au beurre, attendaient le moment de la consommation. Penchée sur sa tasse de thé vaporeux, contemplant Clennam à travers le double nuage de son thé et de son haleine, elle avait l'air d'une de ces méchantes sorcières de la Chlu, occupée à célébrer quelque rite sacrilège. Alors elle posa sa grande tasse sur la table et s'écria « Le diable soit de lui, le voilà revenu !» Cette exclamation donnerait à croire que l'implacable parente de feu M. Finching, mesurant le temps, non pas d'après la marche de l'horloge, mais d'après la vivacité de ses sensations, se figurait que Clennam ne faisait que de sortir, tandis qu'il y avait au moins 3 mois qu'il n'avait eu la témérité de se présenter devant elle. « Bonté divine, Arthur !» s'écria Flora, se levant pour lui faire un accueil cordial. « Doyce et Clennam, quel miracle et quelle surprise ! Car, bien que nous ne soyons pas si loin de la fonderie, il paraît que vous ne pouvez jamais passer par ici, même à l'heure du goûter, où un verre de Xérès et un modeste sandwich ne viendraient pas mal à propos et ne seraient pas plus mauvais parce qu'on les prend chez des amis. Car vous savez bien que vous êtes obligé de les acheter quelque part, et il faut toujours que le marchand qui vous les vend y trouve son profit. Autrement, il est clair qu'il fermerait boutique s'il n'y avait aucun intérêt. Pourtant, on ne vous voit jamais, et j'ai appris à ne plus y compter, car, ainsi que le disait M. Finching, si voir, c'est croire, ne pas voir, c'est également croire, car lorsque vous ne voyez jamais les gens, vous pouvez bien croire qu'ils vous ont oublié. Non, que j'ai pu espérer, Arthur, Doyce et Clennam, que vous vous souviendriez de moi. Pourquoi l'aurais-je espéré, puisque ces jours-là sont passés? Mais apportez une autre tasse tout de suite et demandez d'autres rôtis. Arthur, asseyez-vous donc plus près du feu. Arthur avait hâte d'expliquer le but de sa visite, mais il en fut empêché pour le moment, malgré lui, par le reproche sentimental renfermé dans les discours de Flora et par le plaisir sincère qu'elle témoignait de le revoir. « Et maintenant, dites-moi quelque chose, tout ce que vous savez, » continua Flora, rapprochant sa chaise de celle de Clennam, « à propos de la bonne chère petite Dorrit et de tous ces changements de fortune. Ce sont des gens à équipage maintenant, sans aucun doute, avec des chevaux sans nombre. Quelle histoire romanesque! Ils ont des armoiries, naturellement, avec des bêtes assises sur leurs séants et allongeant les pattes de devant pour montrer ses armes, comme un écolier montre une page d'écriture qu'il vient de finir. Et des gueules larges comme ça! Bonté divine! Et jouit-elle d'une bonne santé? Car c'est là la première chose au monde, puisqu'après tout, les richesses ne sont rien sans la santé. » M. Finching lui-même disait, lorsque la goutte le tourmentait, qu'il aimerait mieux ne gagner que 6 pence par jour, sans la nourriture, pourvu qu'il se portât bien. Non qu'il eût pu vivre avec cela, tant s'en faut, ou que cette chère petite, je me sers là d'une expression trop familière, fût le moins du monde sujette à la goutte, beaucoup trop frêle pour cela, car elle avait l'air bien faible. Dieu la bénisse. » La tante de M. Finching, qui avait rongé une de ses rôties jusqu'à la croûte, offrit d'un air solennel cette croûte à Flora, qui la mangea, ma foi, comme si c'était une affaire entendue. Alors la tante de M. Finching humecta l'un après l'autre ses 10 doigts en les passant sur ses lèvres avec une lenteur impartiale et les essuya dans le même ordre de succession sur le mouchoir blanc. Puis elle prit l'autre rôtie et commença à l'expédier. Tout en poursuivant cet exercice routinier, elle contemplait Clennam d'un œil si sévère qu'il se crut obligé de la regarder à son tour, bien à contre-cœur. « Elle est en Italie avec toute sa famille, Flora, » répondit-il, lorsque la terrible tante eut cessé de le regarder pour s'occuper de son pain grillé. « Comment ? La voilà en Italie ? » dit Flora, « dans ce pays où les raisins et les figues, et les colliers et les bracelets de lave aussi, ce pays de la poésie, orné de montagnes brillantes, pittoresque au-delà de toute croyance. Si les petits joueurs s'enfuient de ce voisinage afin de ne pas être roussis, il n'y a rien d'étonnant à cela vu leur âge, et s'ils emmènent leur souris blanche avec eux, c'est on ne peut plus humain. Foule-t-elle vraiment cette terre favorisée, où elle ne voit que du bleu et des gladiateurs mourants et des belvédères, bien que M. Finching, pour sa part, ne crût pas un mot de l'authenticité de ses figures, attendu, disait-il, lorsqu'il était de bonne humeur, que ces statues ne pouvaient être que des images infidèles. Qu'on n'y voyait pas de milieu entre la profusion de linge mal amidonné, dont elles étaient drapées, et pas de linge du tout, ce qui en effet ne paraît guère probable, à moins de l'expliquer par l'extrême misère ou l'extrême opulence des sujets qui n'admettraient pas de milieu. Arthur essaya de glisser un mot, mais Flora reprit au pas de course. « Et Venise, je crois que vous y avez été. » Pourquoi donc la tragédie de je ne sais plus qui appelle cette ville Venise sauvée? A-t-elle été bien ou mal sauvée? On est si peu d'accord sur ces choses-là. Et leur macaroni, le mangent-ils vraiment comme les jongleurs avec leurs épées? Pourquoi ne le coupent-ils pas plus menu? Vous connaissez Arthur, cher Doyce et Clennam, du moins pas cher, et dans tous les cas pas cher Doyce, car je n'ai pas le plaisir de le connaître. Mais vous m'excuserez. Vous connaissez, je crois, Mantoue, et quel rapport y a-t-il entre cette ville et nos Mantes? Je n'ai jamais pu le deviner. Je crois qu'il n'existe aucun rapport, Flora, commença Clennam, mais Flora lui coupa de nouveau la parole. En vérité, vous m'étonnez, mais je n'en fais jamais d'autre. Lorsque je me mets une idée dans la tête, comme je n'en ai pas à revendre, je la garde. Hélas, il fut un temps, cher Arthur, c'est-à-dire certainement pas cher, ni Arthur non plus, mais vous me comprenez, où une idée lumineuse dorait l'horizon de nos jeunes, etc. Mais un sombre nuage est venu l'envelopper et tout est fini. On lisait si clairement sur les traits d'Arthur qu'il désirait aborder un sujet de conversation tout à fait différent, que Flora s'arrêta enfin en lui lançant un tendre regard et lui demanda ce qu'il avait à lui dire. « J'ai le plus vif désir, Flora, de causer avec une personne qui se trouve en ce moment chez vous. Avec M. Casby, sans doute. Une personne que je viens de voir entrer ici et qui, sous l'influence de mauvais conseils, s'est enfui de chez un de mes amis. « Papa voit tant de monde et de si drôles de gens, répondit Flora en se levant, que je ne me permettrai pas de descendre chez lui pour tout autre que pour vous, Arthur. Mais pour vous, je descendrai volontiers dans une cloche à plongeurs, à plus forte raison dans une salle à manger. Je vais être revenu dans l'instant. Voulez-vous bien, en mon absence, veiller sans en avoir l'air sur la tente de M. Finching ?» À ces mots, et après avoir lancé à Clennam un regard plein de tendresse, Flora s'éloigna tout empressée, le laissant en proie à de terribles appréhensions à propos du précieux dépôt qu'on venait de confier à sa garde. Le premier changement qui se manifesta dans la conduite de la tante de M. Finching, lorsqu'elle eut achevé sa seconde rôtie, fut un reniflement aussi bruyant que prolongé. Comme il n'y avait pas moyen d'interpréter cette manifestation autrement que comme un défi, tant elle y mettait d'obstination menaçante, Clennam regarda cette dame excellente, quoique bien injuste dans ses préventions, dans l'espoir de la désarmer par une humble soumission. « Allons, tâchez de ne pas me faire des yeux !» s'écria la tante de M. Finching, avec un tremblement qui avait l'air d'une déclaration de guerre. « Prenez ça !» Ça, c'était la croûte de sa rôtie. Arthur accepta cette offrande avec beaucoup de reconnaissance apparente et la tint à la main avec un léger embarras, qui ne fut pas diminué lorsque la tante de M. Finching, élevant la voix, s'écria « Monsieur est sur sa bouche ! Il est trop fier, cet individu-là, pour manger ce qu'on lui donne !» et quitta son siège pour brandir son poing vénérable si près du nez du coupable qu'elle lui chatouilla l'épiderme. Sans le retour opportun de Flora, qui vint le tirer de cette position gênante, on ne sait pas ce qui aurait pu arriver. Flora, sans perdre son sang-froid, ni témoigner la moindre surprise, félicita la vieille dame de ce qu'elle était très éveillée ce soir et la ramena à son fauteuil. « Monsieur est sur sa bouche !» répéta la tante de M. Finching lorsqu'elle fut de nouveau installée dans son siège favori. « Donnez-lui cette belle botte de foin !»« Oh, ma tante, je crois qu'il n'aimerait pas trop cette nourriture-là » répondit la nièce. « Donnez-lui une botte de foin, vous dis-je » s'écria encore une fois la tante de M. Finching, écartant Flora pour lancer à son ennemi des regards pleins de courroux. C'est le seul remède contre ces estomacs orgueilleux, et qu'il n'en perde pas une bouchée. Le diable soit de lui, donnez-lui une botte de foin. Sous prétexte d'aller lui faire prendre ce rafraîchissement, Flora emmena Arthur, tandis que l'irascible tante continuait à crier avec une amertume croissante que ce n'était qu'un individu, qu'il était sur sa bouche, ce monsieur, et elle insistait pour qu'on lui administrât le repas équestre qu'elle avait prescrit avec tant d'énergie. L'escalier est si roide, et il y a tant d'encoignures, Arthur, soupira Flora, cela vous serait-il égal de me soutenir en passant le bras sous ma pèlerine ? Clennam sentit tout le ridicule de sa position, mais il n'en descendit pas moins l'escalier, dans l'attitude requise, et ne lâcha son aimable fardeau qu'à la porte de la salle à manger. Encore eut-il un peu de peine à s'en débarrasser là, car Flora, continuait de se pencher sur son épaule en murmurant « Arthur, au nom du ciel, pas un mot de cela à papa !» Elle entra avec Clennam dans la chambre où le patriarche se trouvait déjà seul, ses chaussons de lisière sur le garde-centre, faisant encore tourner ses pouces comme s'il ne s'était pas arrêté depuis la dernière visite d'Arthur. Le jeune patriarche, âgé de 10 ans, qui regardait du haut de son cadre, n'avait pas l'air plus calme que le patriarche consommé. Les deux têtes, aussi lisses l'une que l'autre, étaient aussi bénévoles, aussi innocentes, aussi émaillées de bosse. « Monsieur Clennam, je suis heureux de vous voir. J'espère que vous vous portez bien, monsieur. J'espère que vous vous portez bien. Veuillez vous asseoir. » « J'avais compté, monsieur, » répondit Clennam, qui prit un siège et regarda autour de lui avec un air de désappointement, « ne pas vous trouver seul. »« Ah, vraiment ?» répliqua le patriarche d'un ton suave. « Ah, vraiment ?»« C'est ce que je vous ai dit, papa, vous savez bien, » s'écria Flora. « Ah oui, » répondit le patriarche, « c'est juste, ah oui. »« Oserais-je vous prier, » demanda Clennam avec inquiétude, « de me dire si Mademoiselle Wade est partie ?»« Mademoiselle, oh, vous lui donnez le nom de Wade, » répondit Casby, « c'est très convenable. » Arthur répliqua vivement, « Et vous, quel nom lui donnez-vous ?»« Wade, » répondit M. Casby, « oh, je ne l'appelle pas autrement. » Après avoir contemplé le visage philanthropique et les longs cheveux blancs et soyeux de M. Casby, qui faisait toujours aller ses pouces et adressait au feu un sourire plein de bienveillance, comme s'il désirait seulement que ce feu pût le brûler, afin de lui donner l'occasion de lui pardonner charitablement, Arthur commença « Je vous demande pardon, M. Casby. »« du tout, » interrompit le patriarche, « du tout. » »« Mais Mademoiselle Wade avait avec elle une bonne. » Une jeune personne qui a été élevée par des amis à moi et sur laquelle sa nouvelle maîtresse ne semble pas exercer une influence des plus salutaires. Je désire vivement être à même de faire savoir à mes amis que cette jeune fille n'a pas perdu tout droit à l'intérêt qu'ils lui portent encore. « en vérité, » répliqua M. Casby. « Seriez-vous donc assez bon pour me donner l'adresse de Mademoiselle Wade ? Que c'est donc dommage ! « Comme c'est malheureux, si vous m'aviez seulement demandé cela pendant qu'elles étaient encore ici. »« En effet, j'ai remarqué la personne en question, M. Clennam. »« Une jeune fille au visage un peu coloré, M. Clennam, avec des cheveux et des yeux très noirs, si je ne me trompe. » Arthur lui expliqua qu'il ne se trompait pas et répéta avec une nouvelle expression d'inquiétude « Seriez-vous assez bon pour me donner leur adresse ?»« Là, 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 quel dommage !» s'écria le patriarche d'un ton de doux regret. « Quel dommage! Je n'ai pas leur adresse, monsieur. Mademoiselle Wade habite presque toujours à l'étranger, monsieur Clennam. Depuis des années, elle voyage, et elle est, si je puis parler ainsi d'une sœur en Dieu et d'une dame, capricieuse et irrésolue, comme il n'est pas permis de l'être. Il peut s'écouler bien des années avant que je la revoie. Je puis même ne jamais la revoir. Quel dommage! Quel dommage !» Clennam finit par reconnaître qu'il aurait autant valu s'adresser au portrait qu'à M. Casby lui-même pour obtenir quelque assistance. « Monsieur Casby, pourriez-vous, pour la satisfaction des amis dont j'ai parlé, et sous le sceau du secret, si vous pensez qu'il soit de votre devoir d'imposer cette condition, me donner des renseignements sur Mademoiselle Wade ? Je l'ai rencontrée à l'étranger et je l'ai vue chez elle, mais je ne la connais pas du tout. Ne pourriez-vous me donner quelques détails sur elle ? « Aucun !» répliqua M. Casby, secouant sa tête avec sa bienveillance la plus patriarcale. « Aucun ! Quel grand dommage qu'elle soit partie si tôt, ou que vous soyez venu si tard. En ma qualité d'agent d'affaires, j'ai de temps à autre remis diverses sommes d'argent à cette dame. Mais à quoi cela vous avance-t-il, monsieur, de savoir ce mince détail ?»« À rien du tout !» dit Clennam. « À rien du tout !» répéta le patriarche au visage luisant, qui continuait à adresser au feu un sourire philanthropique. « Très sagement répondu, monsieur Clennam. Cela ne vous avance à rien du tout. » La façon dont il faisait tourner ses pouces indiquait si clairement à Arthur que monsieur Casby ferait tourner de même la conversation dans un cercle infranchissable sans lui laisser faire un pas, qu'il se tint pour décidément convaincu qu'il avait perdu son temps à interroger le patriarche. Il pouvait y songer à loisir, car M. Casbé, habitué depuis tant d'années à faire son chemin sans s'occuper d'autre chose que de donner un aspect vénérable à ses bosses et à ses cheveux blancs, savait que le secret de sa force était dans son silence. Il se tenait donc là à tourner ses pouces et à donner à chacune des bosses de son crâne un air aussi bienveillant que possible. Découragé par ce spectacle, Arthur s'était levé pour partir lorsque, du fond de ce dock où Punks, le remorqueur, se réfugiait quand il n'était pas armé en course, on entendit sortir un bruit qui semblait indiquer que ce petit vapeur se dirigeait vers la salle à manger. Arthur remarqua que le bruit avait commencé d'une façon démonstrative, à une certaine distance, comme si M. Punks cherchait à faire comprendre à quiconque se donnerait la peine de songer à lui qu'il arrivait de trop loin pour avoir pu entendre un mot de la conversation. M. Punks et lui échangèrent une poignée de main. Le bohémien apportait à son patron quelques lettres à signer. M. Punks, après la poignée de main, s'était contenté de se gratter le sourcil avec son index gauche et de renifler une fois. Mais Clennam, qui le comprenait mieux qu'autrefois, devina que le commis allait avoir bientôt terminé sa journée et désirait lui parler dehors. Après avoir pris congé de M. Casbé et de Flora, ce qui fut moins facile, il se promena lentement dans la direction que devait suivre M. Punks. Au bout de quelques instants, le bohémien parut. Lorsqu'il eut donné une nouvelle poignée de main à Arthur et laissé échapper un second reniflement significatif en ôtant son chapeau pour passer ses doigts dans ses cheveux, Clennam crut que cela voulait dire qu'il pouvait parler à M. Punks comme à un homme qui n'était pas mal informé de ce qui s'était passé. Il lui demanda donc, sans autre préambule, « Je présume qu'elles étaient vraiment parties, Punks. Oui, elles étaient vraiment parties. Sait-il l'adresse de cette dame ? Je l'ignore, mais je pense que oui. » M. Punks ne la savait pas ? Non, M. Punks ne la savait pas. M. Punks savait-il quelque chose sur le compte de Mademoiselle Wade ? Je crois pouvoir me flatter, répliqua le digne remorqueur, d'en savoir sur son compte autant qu'elle en sait elle-même. Elle est l'enfant de quelqu'un, ou de tout le monde, ou de personne. Enfermez-la dans un salon de Londres, avec une demi-douzaine de personnes assez âgées pour être ses parents, et elle ne pourra pas jurer qu'elle ne se trouve pas en présence de ses parents. Elle peut les rencontrer dans la première maison venue, dans le premier cimetière venu, elle peut se heurter contre eux dans la rue, et faire connaissance avec eux par hasard, sans jamais savoir à qui elle a affaire. Elle ne les connaît pas du tout, elle ne les a jamais connus, elle ne les connaîtra jamais. Elle est seule au monde. M. Casby pourrait peut-être la mettre sur la voie. Peut-être, c'est probable, mais je n'en suis pas sûr. On lui a confié, il y a longtemps de ça, quelque argent, pas trop à ce que je puis deviner, qu'il doit remettre par petite somme à cette dame lorsqu'elle ne peut s'en passer. Quelquefois elle est fière et reste des années sans rien demander. D'autres fois elle est si pauvre qu'elle en demande tout de suite. Elle passe sa vie à se tordre comme une vipère blessée. Il n'y a pas au monde une femme plus colère, plus emportée, plus endurcie, plus vindicative. Elle est venue chercher l'argent ce soir en disant qu'elle en avait un pressant besoin. « Je crois, remarqua Clennam d'un ton rêveur, que j'ai appris par hasard pourquoi c'est, ou du moins dans quelle poche cet argent doit aller. Vraiment ? S'il s'agit d'un contrat, je conseille fort à la partie adverse de ne pas manquer à son engagement. Quelque jeune et belle que soit cette femme, je ne me fierais pas à elle si j'avais eu des torts à son égard. Oh non, quand il y aurait comme en jeu le double de la fortune de mon propriétaire. À moins, ajouta Punks comme clause conditionnelle, que je ne fusse atteint d'une maladie incurable et que je voulusse en finir. Arthur, repassant à la hâte ses propres opinions concernant Mademoiselle Wade, trouva qu'elle s'accordait assez avec celle de M. Punks. « Ce qui m'étonne, continua ce dernier, c'est qu'elle n'ait pas encore fait l'affaire à mon propriétaire, comme étant le seul individu au fait de son histoire sur qui elle puisse mettre la main. À propos, je vous dirai, entre nous, que moi-même, je me sens quelquefois disposé à lui faire son affaire. » « De grâce, Punks, ne parlez pas ainsi. »« Entendons-nous, » dit Punks, allongeant sur la manche d'Arthur cinq doigts sales dont il avait rongé les ongles à profit. « Je ne veux pas dire que je lui couperai la gorge. Mais par tout ce qu'il y a de sacré, s'il va trop loin, je lui couperai les cheveux. » Après s'être montré sous un nouveau jour par cette terrible annonce, M. Punks, avec un visage plein de gravité, renifla plusieurs fois et s'éloigna à toute vapeur.